Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je mesure en cet instant à la fois la tâche importante qui m'incombe, mais aussi l'honneur qui m'est fait d'être en charge des affaires de notre ville.
Bonjour Yann Potin.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes historien et vous nous parlez aujourd'hui d'une loi qui a été promulguée le 14 décembre 1789. C'est la loi qui institue l'idée de commune en France. Il y en a 44 000 ce jour-là. En quoi ça consiste? Pourquoi cette loi est, à proprement parler, révolutionnaire?
Alors doublement révolutionnaire, parce que d'abord, effectivement, la révolution a commencé depuis plusieurs mois, cette révolution de 1789. Mais cette loi de décembre vient apaiser une autre révolution, révolution provinciale qui s'est déroulée pendant l'été, qu'on appelle justement la révolution municipale, où spontanément les villages, les communautés, les communes, les villes, se sont données à elles-mêmes, se sont affranchies elles-mêmes, se sont données à elles-mêmes des institutions, avec notamment une commotion majeure dans les campagnes, pas toutes les campagnes, mais beaucoup de campagnes, la fameuse grande peur de l'été 1789, où on a voulu abolir, violenter les puissances locales.
À quelles étaient-elles ces puissances locales seigneuriales, avant 1789
châtelaines. Mais il y avait aussi des communautés urbaines, villageoises, très très diverses, pas du tout unifiées. Et justement, c'est tout le paradoxe de cette loi de 1789, qui est à la fois révolutionnaire et extrêmement conservatrice. Alors, elle provient...
Parce qu'on garde le chiffre de 44 000 comme dans l'Ancien Régime.
Exactement. Alors aujourd'hui, il a été un peu réduit parce que les communes se regroupent et que voilà. Mais en gros, c'est la France d'aujourd'hui. Hein, c'est l'unité, c'est l'atome territorial de la France qui est défini là, mais qui en fait qui n'est que redéfini et qui n'est que repris. Et c'est en cela que cette loi, paradoxalement, est à la fois révolutionnaire et en même temps conservatrice. Pourquoi ? Alors, il y a un très long débat à l'Assemblée depuis le mois de septembre, depuis le rapport de Touret, le député de Rouen, aux États généraux, qui est un grand juriste, sur l'organisation générale de la France. Et la question de savoir si on va dans une pyramide ascendante, depuis le plus petit échelon local, que serait le village, la commune, jusqu'à une assemblée représentative. Et dans cette pyramide, quelle est la place des départements? On est donc là avant la loi sur les départements, qui sera en février 1790, quelques semaines plus tard. Donc, il y a un énorme débat entre est-ce que la commune, la cellule de base, doit être le point de départ ascendant des différentes représentations comme en cascade pour aboutir à des députés, ou est-ce qu'elle doit être déconnectée des assemblées primaires au niveau des districts puis des départements, ce qui est notre situation en fait très lointainement aujourd'hui avec les conseils généraux, et que donc il doit y avoir une sorte d'autonomie locale pour un certain nombre de fonctions, on va dire domestiques, et une dépendance nationale, une irrigation nationale des cellules départementales, puis à l'Assemblée.
Donc c'est la deuxième option qui a été choisie.
Et c'est la deuxième option qui a été choisie, c'est-à-dire déconnecter fondamentalement les pouvoirs locaux des pouvoirs nationaux. Ce qui est un grand paradoxe, puisque c'est reconduire, au fond, ce qui était, en l'uniformisant simplement, ce qui était la réalité de l'Ancien Régime. Donc on a là, en fait, en plein cœur de ce processus révolutionnaire, un acte qui fait prolonger l'ancienne France dans la nouvelle, l'ancien régime dans la Révolution.
Et justement, le mot « maire » est né à ce moment-là, en 1789. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire. C'est l'article 4 de cette fameuse loi municipale qui a été donc promulguée le 14 décembre 1789.